On y voit un peu trouble aujourd'hui dans les eaux du lavoir. Alors il faut imaginer. Il faut s'imaginer, chers auditeurices, le bruit de l'eau qui coule, la mousse qui déborde, le soleil qui diffracte ses rayons dans les bulles, l'odeur de lavande qui s'évapore, et puis, simplement, une conversation qui file, tranquillement, comme du coton. Non, vous n'êtes pas sur un podcast de méditation, mais bien sur Canal Sud avec les lessiveuses. Et jusque 15h, on va être là, s'écouter, se raconter, des livres, des témoignages, des musiques. Laura nous racontera le livre « La ronde des folles, femmes, folie et enfermement au XIXe siècle » de Yannick Ripa. Savannah nous partagera un témoignage qu'elle a récolté auprès d'une amie autour de la thématique de la violence conjugale, une violence qui prend racine au sein des relations adolescentes. Anissa lira le prologue de la pièce « Ring » de Eleonore Cofino, un dialogue surprenant entre Ève et Adam, notamment.
Merci Mathilde pour cette introduction. Comme tu l'as dit, aujourd'hui on va parler des violences conjugales, en particulier chez les adolescentes. Une amie à moi a malheureusement vécu ceci et elle a voulu partager aujourd'hui son témoignage. Donc je vais vous le lire. Tout d'abord, je la remercie de nous partager son expérience, sa force et son courage et de nous faire confiance avec une partie de son histoire. Je vous fais un trigger warning. Ce texte peut être difficile à entendre puisqu'il parle de violence. Je commence. J'avais 15 ans, la première fois qu'il a levé la main sur moi. Beaucoup trop jeune pour mettre ne serait-ce qu'un mot sur ce qui se passait. Parce que, entre guillemets, qui aime bien, châtie bien. Cette phrase qu'on répète sans cesse aux enfants pour justifier l'incapacité et le manque d'investissement flagrant des instituteurs et institutrices dans la gestion des conflits. Alors que non, qui aime ne châtie pas. Mon histoire a donc commencé avec un bourrage de crâne sur pourquoi les garçons qui, amoureux, embêtent souvent les filles et a fini au commissariat. La violence, quelle qu'elle soit, est toujours inscrite dans un cycle sans fin. Elle ne vient jamais seule, elle n'est jamais ponctuelle ou exceptionnelle, la violence physique étant accompagnée de sa meilleure amie, la violence psychologique. Unie comme les deux doigts de la main, jamais l'une sans l'autre, double peine. En plus des coups, il y avait des insultes, les « on ne peut pas se doucher ensemble, tu es trop grosse, tu prendras toute la place ». Et comme si cela ne suffisait pas, et pour compléter le trio de l'enfer, les violences sexuelles sont arrivées. Mais où place-t-on le curseur du viol ? Parce que comme le charmant jeune policier derrière le comptoir me l'a dit, lorsque je lui ai raconté mon histoire 4 ans plus tard, vous n'avez pas dit non. Effectivement, quand il m'obligeait à me déshabiller en silence devant la porte, qu'il me menaçait de me mettre dehors et que je pleurais de douleur, dans tout ça, je n'ai pas dit non une seule fois. J'ai dit j'ai mal, j'ai dit s'il te plaît arrête, je n'ai pas dit non une seule fois. J'ai pleuré beaucoup, saigné aussi, mais je n'ai pas dit ce fameux non qui visiblement a toute son importance. Je me sentais trahie par mon propre corps qui n'était pas capable de hurler ou de se débattre, qui se pétrifiait de peur. Je suis morte de l'intérieur tellement de fois que j'ai souvent espéré que mon corps meure avec mon esprit. Je me souviens nettement de cette fois où, suffocante dans mon canapé, je me suis dit « j'aurais préféré me faire renverser par un bus ». Quand il m'a enfin lâchée, il m'a dit cette phrase qu'il a tatouée au fer rouge dans tout mon être. « Souviens-toi que tu vis, parce que j'en ai envie ». Parce qu'à compter de ce moment-là, il était devenu Dieu. Je lui devais la vie, là où il n'aurait même pas pu mais là où il n'aurait même pas dû s'approprier ce droit. Mais bizarrement, dans toutes ces horreurs, le pire, ce n'est jamais l'instant T, parce que ça va s'arrêter. Parce qu'il va finir par se calmer ou parce que je vais y passer, mais ça va s'arrêter. Non, le pire, c'est le après. Parce que le après, lui, ne s'arrête jamais. Toutes les fois où je suis rentrée chez moi avec son odeur qui me collait à la peau, où je filais dans la douche en me frottant pour essayer de faire disparaître une sensation que j'essaie encore de faire disparaître aujourd'hui, je me sentais répugnante, je m'étouffais dans mes pleurs en laissant couler l'eau brûlante pour oublier mon envie de vomir. Je porterai pour toujours les marques indélébiles de ses mains sales sur mon corps. Les blessures de mon âme ne guériront jamais, celles de mes proches non plus. Je resterai hantée par le regard de mes amis, par les sanglots étouffés dans leur voix quand je leur ai annoncé la réalité de la situation. La culpabilité qui les foudroyait et que je portais avec elle pour leur avoir infligé ma peine, la douleur dans les yeux de ma mère, la colère de mon petit frère qui ne s'atténuera jamais, les discussions avec mon meilleur ami qui me disait « si j'avais su, j'aurais été là, je sais qu'ils auraient tous été là ». Mais comment leur demander de me sauver quand je ne voulais même pas être sauvée, parce que non, je ne le voulais pas, Je n'étais pas prête à abandonner cet homme que j'aimais plus que ma propre vie. Je me disais toujours que, quitte à vivre l'enfer, autant la vivre avec lui. L'enfant rayonnante et joyeuse que j'étais s'était transformée en adolescente morose et en jeune femme anéantie. Penser que la violence conjugale ne touche que des femmes avec des enfants est une erreur. Mon histoire n'est certes pas une référence universelle, mais elle est suffisante pour dire que oui, cette violence touche aussi les adolescentes. Alors, après 4 ans de cauchemars, 4 ans de thérapie, un diagnostic de dépression et de syndrome post-traumatique, je peux dire que oui, j'ai été battue, que oui, j'ai été violée, mais que je suis là. J'ai arrêté de m'en vouloir. J'en veux à l'éducation nationale, aux écoles, de ne pas avoir fait leur travail de prévention. J'en veux à tous ces adultes qui disent « ça te passera en grandissant » sans comprendre que les problèmes de l'adolescence ne sont pas sans conséquences. J'en veux à tous ces parents qui continuent à penser que les relations sexuelles doivent se faire en dehors du domicile familial, alors que ce dernier est censé incarner la sécurité. J'en veux à tous ces gens témoins qui n'ont jamais eu le cran de lever le petit doigt. J'en veux aux infirmières et aux psychologues qui minimisent l'impact de la violence psychologique. Je ne lui en veux même pas à lui. Je suis le résultat de ce que j'ai vécu et j'essaie aujourd'hui de sauver les jeunes filles comme moi, leur offrir la chance que je n'ai pas eue. Je m'efforce d'éduquer, à mon échelle, les adolescents et adolescentes à la vie relationnelle et sexuelle car ils sont les adultes de demain. Il a fait de moi une femme révoltée avec un grand R. Pour ça, je le remercierai presque. Mais évidemment, ça ne plairait pas à mon psy. Merci pour ce témoignage incroyable et incroyablement dur. Nous avons une responsabilité collective envers les femmes de tout âge ayant vécu des violences conjugales, sexuelles ou sexistes. De d'abord les croire, d'entendre leurs témoignages, sans douter de leurs paroles, sans pour une seule seconde douter de la vérité de ce qu'elles disent et de sous-estimer la gravité de la situation. Le fait de parler des violences vécues est un acte de courage et de force qui ne devrait jamais être remis en question. Nous avons toutes et tous déjà entendu la phrase « Si tu es neutre en situation d'injustice, alors tu as choisi le côté de l'oppresseur ». Pourtant, nous n'appliquons pas la sagesse qu'elle exprime en fermant les yeux face aux signaux et en ignorant les mots de celles qui sont enfermées dans la violence de leur oppresseur. Mais notre société va plus loin en défendant les bourreaux. Et dans le cas des violences chez les adolescents et les adolescentes, pour préserver leur avenir, pour ne pas entacher la vie future des bourreaux. Mais qu'en est-il de celle de la femme et des cicatrices qui vont l'accompagner tout au long de sa vie et tisser un parcours de souffrance psychologique imaginable ? La réticence et le tabou autour de ce sujet est palpable dans tous les recoins de notre quotidien et de notre société. Le manque d'empathie, de compréhension est rayonnant et le manque de moyens de prévention est juste béant. En effet, l'association Nous Toutes exprime dans une enquête sur le dépôt de plainte des violences conjugales dont vous pouvez trouver le dossier entier sous hashtag prends ma plainte, remet en cause le chiffre publié par le ministre de l'Intérieur en 2021 qui stipule que 90% des femmes ayant porté plainte en 2020 pour des faits de violences conjugales étaient satisfaites de l'accueil en commissariat et en gendarmerie. Ce chiffre est peu croyable au vu des témoignages de victimes et l'enquête de Nous Toutes ne fait que le renforcer. Plusieurs informations alarmantes sont présentes dans les résultats de cette étude, comme le fait que les femmes victimes de violences sexuelles témoignent dans de nouveaux cas que d'une banalisation des faits par les forces de l'ordre et d'un refus de prendre leur plainte, ce qui est pourtant illégal. Les personnes mineures ayant porté plainte pour des faits de violences sexuelles témoignent d'une culpabilisation très fréquente de la part des forces de l'ordre. L'association a récolté 3496 témoignages et 66% des répondantes font état d'une mauvaise prise en charge par les forces de l'ordre lorsqu'elles ont voulu porter plainte pour des faits de violences sexuelles. Les personnes ont détaillé leur expérience. 67,8% ont subi une banalisation des faits, 55,2% une culpabilisation et 26,2% une solidarité avec la personne mise en cause pour les violences, 29% des moqueries sexistes ou propos discriminants. Ces chiffres peignent un tableau honteux. Pour moi personnellement, ce qui me perturbe le plus, c'est à quel point je ne suis pas choquée ni étonnée des résultats, mais par contre je n'ai pas cru une seule seconde que ce 90% de notre gouvernement est une représentation de la réalité du terrain. Voilà le renversement tragique, et j'utilise le mot tragique au sens le plus clair de sa définition, tragique signifiant fatal, qui mène à la mort, de la gestion de cette crise qui dure depuis toujours. Nous n'avons jamais eu une période sans violence conjugale, sans domination masculine dans les couples hétérosexuels qui mènent à des souffrances énormes. Par renversement, je veux dire que les bourreaux sont écoutés, pas les victimes. Les bourreaux sont protégés, pas les victimes. Par exemple, Magali Blandin, victime de féminicide en février 2021, avait porté plainte contre son conjoint, qui deviendra son assassin. Mais sa plainte avait été classée sans suite. Elle serait vivante aujourd'hui si la justice avait été de son côté et pris au sérieux la gravité de la situation, ainsi que les violences qu'elle a subies. Ce renversement tragique ne pourra prendre fin que lorsque nous renversons la manière d'aborder les violences conjugales, et cela commence tôt. Je pense que nous avons pour la plupart déjà entendu la phrase « Mais pourquoi elle n'est pas partie ?» Non, pourquoi on ne l'a pas aidée, sauvée, défendue ? Pourquoi on a laissé libre chemin à son agresseur ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il est violent ? Là, les questions passent la culpabilité et la honte au bon endroit, pas dans les mains de la femme qui trouve le courage de parler de ce qu'elle vit, pas dans les mains de celle qui subit, mais de celui qui agit. Cela ouvre la porte à d'autres questions. Pourquoi nous disons la phrase « qui aime bien châtie bien » comme l'énonce mon ami à nos enfants ? Pourquoi nous apprenons aux filles de pardonner car les hommes sont comme ça ? Ou pourquoi nous disons aux adolescentes « ils grandissent et deviennent matures moins vite » ? Pourquoi les écoles, collèges et lycées n'enseignent pas le consentement aux garçons ? Lorsque nous poserons les bonnes questions et que les hommes arrêteront d'être intouchables et protégés, là le renversement se transformerait, là nous arrêterons peut-être enfin de compter les féminicides. Il y en a eu 113 en 2021, 113. Et cela peut arriver dès l'adolescence. Je veux encore remercier mon amie pour son témoignage et la confiance qu'elle nous aborde, qu'elle nous donne pour le partager. Un sondage a été réalisé par Les Petites Glos, une newsletter féministe pour les adolescentes sur la violence dans les couples de jeunes. Sur les 3127 personnes ayant répondu, 90,3% des personnes s'identifiant comme femmes ont répondu oui à au moins une question sur l'expérience des violences conjugales. La violence dans les couples adolescents est souvent sous-estimée, pourtant les insultes, la violence physique, l'oppression existent déjà. Par exemple, il y a une idéalisation de la relation passionnelle et de la jalousie qu'elle engendre. D'autre part, la pression des actes sexuels est aussi courante et banalisée. Tout cela se déroule sous les yeux de la société mais n'est pas prise au sérieux, car chez les adolescents c'est pas du vrai amour, c'est pas du vrai couple, c'est du drama. Alors oui, la violence c'est pas du vrai amour, mais ce sont des couples, des vrais, avec des situations extrêmement dangereuses, dans lesquelles les adolescentes sont seules et vivent toutes les mêmes injustices que les femmes adultes. La réalité elle est là. Elle est terrible, mais seulement la constater n'est pas suffisante. Il faut des actions concrètes, du soutien et des solutions concrètes. Pour finir, voici les ressources et les associations qui peuvent vous aider et vous soutenir si vous êtes victime de violences conjugales, peu importe votre âge. Il y a le numéro national 3919, disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. À Toulouse, l'association APIAF, Association pour la promotion d'initiatives autonomes de femmes, située 31 rue de l'Étoile, qui propose un accueil de jour et un centre d'hébergement où les femmes victimes de violences conjugales sont accompagnées, un soutien psychologique, social et juridique. Il développe également d'autres actions complémentaires comme des groupes de parole, des ateliers d'écriture, des débats, des sorties, des formations de professionnels et de la prévention auprès de jeunes. Il y a également le CID2F31, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui propose un accompagnement global dans toutes vos démarches policières, judiciaires, médicales, sociales et professionnelles, en respectant le rythme et les besoins des victimes de violences conjugales. Merci beaucoup pour votre écoute.
N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas sans condition. N'insiste pas, ouais. N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi. N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix. N'insiste pas, jamais je veux enterrer tes regrets. N'insiste pas, n'insiste pas, faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Tournent dans ma tête, dans ma tête. Dans ma tête, n'insiste pas, j'ai plus plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais. Je suis foutu, hey. Je te dis que je suis foutu. Me laisse qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête. Dans ma tête. N'insiste pas, j'ai tant d'oublier. N'insiste pas, ton temps est passé. N'insiste pas sur ce que tu m'as dit. Tu m'avais promis stop. N'insiste pas, tout est terminé. Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule. T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule. Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule. N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours. Ce que je voulais c'était ton amour. N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi. N'insiste pas, t'es dangereux. Putain, tu caches bien ton jeu. N'insiste pas, c'est terminé. Faut que tu me laisses qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est Laura au micro. Déjà, j'aimerais remercier Savannah pour sa chronique. Et je suis un peu désolée parce qu'on ne va pas continuer non plus sur des choses très joyeuses. Parce que moi, j'aimerais vous parler d'un livre qui est écrit par Yannick Ripa, qui s'intitule « La ronde des folles, femmes, folie et enfermement au XIXe siècle », publié en 1986 aux éditions Aubier. Alors Yannick Ripa, c'est avant tout une historienne française, maître de conférences à l'université de Paris 8 à Saint-Denis, qui fait également partie du groupe de recherche en histoire et anthropologie des femmes à l'école des hautes études en sciences sociales. Aujourd'hui, elle est spécialiste de l'histoire des femmes espagnoles au XXe siècle et elle s'intéresse aux violences exercées sur ces dernières. Elle a aussi publié le premier manuel d'histoire des femmes qui s'intitule « Les femmes actrices de l'histoire, France 1789-1945 ». Voilà, en gros, elle n'a pas chômé de ce côté-là. Hein. Donc, dans la ronde des folles, elle étudie le taux d'internement des femmes, les raisons de ces placements et leur traitement dans des asiles en France de 1838 à 1870. Pour garantir l'anonymat des descendants, et c'est important de le préciser, les prénoms et noms des malades ont été changés, leurs dossiers appartiennent aux séries hospitalières et ces documents sont consultables au service des archives de l'assistance publique. Je vais essayer de vous donner les grandes lignes, parce que c'est enrichi de nombreux exemples et c'est bien de ne pas passer dessus. Elle nous propose donc de nombreux exemples pour retracer l'histoire asilaire en France et surtout de leur population féminine dominante. Pourquoi depuis 1838 déjà ? Eh bien parce que c'est la date à laquelle une loi de police et de bienfaisance a été promulguée sous le règne de Louis-Philippe, qui s'occupait à l'époque des institutions et de la prise en charge des malades mentaux. Une loi qui n'a pour objectif qu'une chose, c'est d'empêcher les aliénés, comme ils sont nommés à l'époque, de nuire à la société. Je cite un extrait. « Cette loi sera reçue avec reconnaissance par tous les vrais amis de l'humanité. Elle remplit une lacune importante dans notre législation administrative. Considérée dans son but et dans ses effets, elle doit être une garantie tout à la fois pour la liberté individuelle et pour la sûreté publique. Elle tend à ménager aussi l'honneur des familles et à favoriser l'application des meilleurs moyens curatifs pour la plus triste des infirmités. Une loi donc sur les aliénés qualifiée de loi de police et de bienfaisance qui prescrit la création dans chaque département d'un établissement public spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés. Elle est quand même restée presque complètement valide jusqu'en 1990, ce qui est énorme. Yannick Ripa, donc, elle va s'intéresser aux internés dans ces asiles, notamment à l'asile de la Salpêtrière à Paris, et très vite constater qu'on n'y trouve pas seulement des cas aigus de démence, mais surtout des femmes qu'on observe pour connaître et réduire au silence leur conduite, qui menace, ou semble en tout cas menacer, l'ordre public ou privé. On a deux types de placements qui sont mis en place. Le placement volontaire qui émane d'un acte privé, demandé par un tiers, le plus souvent un parent, appuyé par un médecin extérieur à l'asile, et le placement d'office, qui lui relève d'une décision préfectorale, soutenue là encore par un avis médical. L'autrice explique de façon très détaillée comment il y a un glissement de la morale, la religion et la police dans le milieu médical, avec des médecins qui se font, comme elle le dit, gardiens de l'ordre. Je cite, « Les médecins dits spéciaux tirent de cette nouvelle situation un surcroît de puissance. Leur connaissance du fonctionnement du cerveau leur confère une aura mystérieuse, voire magique, aux yeux du tout-venant. Leur charisme les a fait à la fois craindre, admirer et respecter un monde aliéniste issu de la bourgeoisie. » Le problème qui est posé ici, c'est celui d'un regard clinique qui va consister à repérer les dérapages qui mèneraient potentiellement à une forme d'aliénation. Mais qui dit repérage, dit porte ouverte à toutes les définitions subjectives possibles et imaginables sur ce qui est réellement la folie. Et donc Yann Igripa constate qu'on voit s'élargir sans cesse cette définition pour mieux délimiter le normal et en conséquence le permis. Ça donne lieu, bah, évidemment, à un étiquetage qui est ambigu, variable dans le temps et l'espace. Pour introduire ces recherches, elle nous fait bien comprendre que déjà dans l'imaginaire collectif, il y a des stigmates qui règnent sur la maladie mentale et surtout sur la maladie mentale chez les femmes. D'ailleurs, l'autrice commence son livre ainsi. « Do, ré, mi, fa, sol, toutes les femmes sont folles, excepté ma bonne qui fait des tartes aux pommes. » Cette comptine du XVIe siècle, que 300 ans plus tard les enfants d'Île-de-France chantonnent encore, nous dit-elle, semble s'inscrire dans une cruelle réalité. Derrière les seuls murs de l'asile, elles sont 9930 entre 1845 et 1849 et 19692 en 1871 à cacher leur démence. La thématique de la maladie mentale, donc, elle est omniprésente à cette époque déjà dans la littérature populaire et bourgeoise, et elle est souvent sous forme d'un état latent ou déclaré de la nature de l'être, et elle est considérée comme émanant, voilà, vraiment de la nature de l'être, bien souvent, et chez l'héroïne, elle est considérée comme un accident dans leur vie, en fait. Elle utilise un exemple simple, pour ne citer que celui-là, connu de beaucoup et qui est celui des deux héroïnes du roman de Balzac qui s'appelle L'Adieu, et où on a deux personnages féminins qui sont Geneviève et Stéphanie, coupées du monde à cause pour l'une de son imbécilité dite congénitale, donc entendez par là pour définir sa folie de naissance, et pour l'autre une aliénation dite accidentelle. Très souvent dans les romans, les feuilletons, les films, la folie, je cite, fait partie de la panoplie des malheurs que doit supporter l'héroïne qui ne les mérite pas, et à celle des punitions qui frappent la méchante. La folie, dans le premier cas, le maillon terminal, le comble du malheur, dans le second, une punition préférée à la mort, qui serait excessive, elle est une demi-mort, celle de l'esprit. Donc là, on a déjà une bonne base biaisée pour définir la folie, et le cas de l'asile de la Salpêtrière à Paris ne viendra pas contredire ces propos, puisqu'il s'agit d'un monde quasi-carcéral, en fait, où pénurie, surpopulation et misère matérielle règnent. L'homme médecin est le seul tout-puissant, les soins y sont violents, voire meurtriers, on y reviendra plus tard avec l'hydrothérapie. Et on parle aussi de traitement moral, censé faire comprendre à l'aliéné, par l'écoute et la douceur, entre gros guillemets, l'aberration de ses raisonnements. La thérapie ici se résume à un travail de répression fait pour réintégrer la femme dans le moule de l'homme que l'homme lui a prédestiné et la soumettre à des valeurs établies par des hommes et pour des hommes. On dénombre la présence de 800 à 1400 folles de 1838 à 1860 à la Salpêtrière. Et Yann Igripa nous dit que même guéries, ces femmes ne seront jamais plus comme les autres. Elles sont semblables aux condamnés qui, leur peine passée, deviennent d'anciens forçats. L'autrice va à tour de rôle nous décrire les intrusions aussi bien de la police, de la politique, de la religion ou encore de la famille dans le domaine médical. Elle relève déjà un vocabulaire et des expressions intimement liées non pas à une nature thérapeutique, de l'asile, mais à une fonction de garde-fou, puisqu'on parle de libérer l'aliéné, la rendre à la société, lui faire recouvrir sa liberté. Bref, le placement est le plus souvent une décision policière. Et je cite encore une fois, un souvent qui à la Salpêtrière se transforme en un toujours. Le placement d'office s'accroît démesurément à partir de 1844. Il tend à l'exclusivité. En 1853, il concerne 80% des internements. Donc les forces de l'ordre arrêtent des femmes soi-disant réduites à l'état d'errance par leur incapacité à vivre seules et n'hésitent pas à intervenir au sein même des familles en se substituant aux parents qui n'oseraient pas franchir le pas de l'internement d'un proche. Yann Igripa nous donne l'exemple de Mademoiselle L, qui, en apprenant le décès de son grand-père, tente de recueillir une partie de son héritage. Elle va réclamer son dû à la police et, sans le vouloir, mettre le doigt dans l'engrenage qui va la broyer, parce que c'est une fille de joie, sa parole n'a pas de poids. Seul son corps semble exister et le chef de bureau de la préfecture, au lieu d'écouter sa requête, essaie de l'embrasser. Donc Mademoiselle L rosse la jambe, entendez par là-bas qu'elle le bat violemment, quoi. Parce qu'elle refuse de se soumettre, il faut la démettre. Le policier, froissé dans sa virilité, bafoué par une prostituée, fait placer mademoiselle L, d'office, à la salpêtrière. Donc s'opposer aux forces de l'ordre mène automatiquement un homme en prison et une femme à l'asile. Une différence de traitement qui révèle que l'agressivité masculine est condamnable comme atteinte à l'ordre établi et relève de la justice, mais que l'agressivité féminine relève du système médical et doit être soignée. Les internements sont liés souvent à une vie dite peu réglée, comme par exemple fréquenter en tant que femme des lieux de plaisir, des bals, des spectacles. Les placements touchent aussi des érotomanes qui seraient atteintes, attention selon le langage médical utilisé à l'époque, de manie hystérique, de manie lubrique, fureur utérine, de manie érotique, penchant à la masturbation, nymphomanie, bref, une activité sexuelle dite débridée et contraire au projet d'une sexualité socialement maîtrisée, encore une fois, où désir et plaisir sont l'apanage de l'homme. L'autrice révèle quelque chose d'intéressant concernant les femmes, internées qui se prennent pour quelqu'un d'autre. Par exemple, l'épouse de Napoléon ou de Jésus, voire simplement elles se prennent bon, pour une duchesse, une princesse, une comtesse. Eh bien, ces femmes-là ne remettent en cause que leur identité sociale, mais jamais leur identité biologique. C'est assez rare que les malades expriment le regret de ne pas être un homme. Ce qu'elles envient, ce n'est pas sa nature, mais c'est son statut social. Et ce statut qui leur fait défaut les empêche également de s'investir comme bon leur semble dans le domaine politique. Exemple, Annette, atteinte de stupidité, pour avoir en 1853 voulu parler à l'empereur, ou encore Ghislaine, en 1854, conduite à la salpêtrière pour avoir jeté une pierre sur le carrosse impérial qui passait dans la rue. L'autrice précise que la violence publique est analysée avec les mêmes paramètres que la violence privée. La révolte politique, même isolée, même balbutiée, est chez une femme un acte fou. L'engagement féminin est donc nié. Il ne peut pas être une révolte consciente, pensée et organisée, mais simplement un acte de folie, un acte contre nature. Et justement, ce terme de contre nature est la conséquence d'aliénistes qui ont une forte propension à considérer le corps des femmes comme porteur de gènes maladifs. La mère serait un réceptacle d'une folie qui insidieusement s'empare de son corps géniteur. En plus d'être porteuse de cette folie, on dit aussi de la femme en tant que compagne qu'elle est responsable de la folie de l'homme. En 1847, l'écrivain romantique et un homme politique français, Esquirot, affirme que c'est un peu la faute des femmes s'il y a sur Terre des hommes qui délirent, qui se suicident ou qui tombent dans le sombre découragement de la folie. Comme si le pouvoir des forces de l'ordre et des aliénistes ne suffisait pas, la famille aussi commence à interner à tout va les femmes de son entourage pour tenter de se préserver. On résout le conflit par l'éviction de la révoltée, on rétablit l'ordre en mettant fin à la débauche. Un geste facilité par la liste interminable des troubles qui peuvent justifier un internement, on peut invoquer des troubles de la personnalité, l'indifférence, la jalousie, la peur, la colère, la vanité, l'ambition et la susceptibilité. L'excentricité, les excès divers, notamment l'ivresse, les conduites suicidaires, la vie de débauche, le rejet du travail et la révolte forment le groupe nommé « trouble du comportement ». Ou encore, le trouble des idées qui rassemble tout ce qui est de l'ordre de la diminution de l'intelligence, les hallucinations et exaltations diverses. En gros, les concepts sont extrêmement flous, recouvrent des réalités multiples, voire illimitées. Yannick Ripa se demande à juste titre où s'arrête l'originalité pour devenir excentricité, quand cesse-t-elle d'être un trait de caractère pour se transformer en symptôme psychiatrique ? La réponse se trouve dans la définition de la normalité féminine, je vous laisse deviner fixée par qui ? Par l'homme, et même pour l'homme. La femme n'existe que par rapport à lui. De fait, aucun terme n'est réservé à la femme seule. Le vocabulaire ne désigne que des « femmes de », « veuve de », « mère de », « fille de ». Or, de la soumission, tout est vice, ce qui pour l'homme est plaisir et folie pour la femme. Les expressions folles d'amour, d'orgueil, de bonheur, de joie, de colère, d'inquiétude, même vidées de leur contenu aujourd'hui, se réfèrent à des troubles jugés bien réels au XIXe siècle. Camille, qui aspire à devenir cuisinière, pour son conjoint, c'est une ambition qualifiée de démesurée. Elle est internée. Blandine, effondrée de douleur à la mort de sa fille, rejette son époux et refuse d'accomplir son devoir conjugal. Elle est internée. Léonie, pas assez affectée par la mort de son mari, mais beaucoup plus par celle de sa belle-mère, est internée. C'est soit trop ou pas assez. Trop de goût pour les études, trop d'émotivité, trop de rancœur, trop rieuse, trop satisfaite d'elle, trop mystique, ou alors trop peu d'intérêt pour son intérieur, trop peu d'amour pour son ami, pour son mari, trop peu d'attention pour ses enfants, le fou ne connaît plus de limites, encore une fois. Le détournement de l'asile se fait dans un but répressif. Au sein de la famille, seule compte la volonté du pouvoir patriarcal. Femme et enfants doivent obéissance à l'époux, au père, cet être doué de raison qui a la possibilité de se substituer à la volonté propre d'autrui grâce à cette loi de 1838. L'autrice nous donne là encore des chiffres issus des registres de placement qui montrent le rôle prépondérant des hommes dans les placements féminins. Dans 80% des cas, ils sont à l'origine de ces internements. Le reste des placements volontaires par des mères s'expliquerait par une difficulté économique des femmes issues des milieux populaires qui décident de se faire interner quand le conjoint est inapte à travailler ou dilapide le bien commun. Donc ici, l'internement pour l'homme, c'est une solution de facilité. Le placement pour la femme, c'est une solution extrême qu'elle n'accepte que difficilement et qu'elle ne considère pas comme définitive. Mais dans les deux cas, l'un et l'autre y ont recours dès qu'ils considèrent que le comportement d'un des leurs met en danger le cocon familial. Pour visualiser quel type de conflits peuvent mener à de telles décisions, Yannick Grippa va encore une fois nous mettre en situation avec un conflit qui, pour le coup, n'a pas lieu sur le territoire français, mais qui est représentatif des causes d'internement à l'époque. Il s'agit de l'affaire Paccard. Donc Elisabeth est une habitante en Illinois et elle est l'épouse d'un révérend calviniste, Théophilus Paccard, avec lequel elle a eu 6 enfants. Sur demande de son mari, Elisabeth est internée à l'asile de Jacksonville. Un placement jugé arbitraire en 1864, puisque les jurés de l'Illinois la reconnaissent comme non aliénée. Pourquoi l'avoir internée ? Eh bien pour avoir tout simplement, encore une fois, clamé haut et fort son opinion et donc commis le délit de penser autrement. Elle provoque alors la colère de son conjoint qui va s'ériger en juge-dieu protecteur et sauveur. Dans les archives, on a un semblant de conversation sur ce qui a pu être dit entre les deux conjoints, et attention, c'est merveilleux. Elisabeth dit « Monsieur mon mari, n'ai-je pas le droit d'avoir mon opinion ?» Il répond « Oui, tu as le droit d'avoir tes opinions si tu penses juste. » Sa femme, qui ne se démonte pas, rétorque « Mais la Constitution ne défend-elle pas le droit d'avoir une opinion personnelle pour tout citoyen américain ?» Et là, le mari lui affirme très sereinement « Oui, elle défend ce droit pour tout citoyen, mais tu n'es pas un citoyen en tant que femme mariée, tu n'as aucune valeur, tu n'es même pas une âme devant la loi. » Bref, tu es morte en ce qui concerne toute existence légale en tant que femme mariée. Encore une fois, Elisabeth ne se démonte pas et réclame le statut d'être humain, de droit d'exister devant la loi, d'élever ses enfants selon ses propres principes, et elle s'engage au sortir de l'asile dans le militantisme féminin et se rebelle contre le patriarcat. Simple, propre, efficace. Pour revenir au cas de la France, en 1854, on a Mademoiselle Ruy qui est placée à Charenton sur la demande de son demi-frère Daniel, parce que tout simplement, il veut l'évincer de l'héritage. On peut lire sur son certificat que la malade serait atteinte de monomanie aiguë avec hallucination, affection qui la rend dangereuse pour elle-même comme pour son entourage. Alors la monomanie, c'est lorsqu'on a une idée fixe au point que ça devienne une obsession. À savoir qu'on considère que tout ce qui n'est pas lié à l'idée du rôle de la mère ou de l'épouse est une forme de monomanie, évidemment. Donc l'autrice résume très justement ces situations par cette phrase. Ces deux vies ont été brisées pour avoir refusé le rôle assigné à la femme, pour avoir ambitionné une existence basée sur les modèles masculins. Ça, c'était pour la première partie très dense quand même de ces recherches, puisqu'après, on entre au sein même des diagnostics de l'asile et de son fonctionnement. Évidemment, on a le droit à un chapitre central sur ce que serait la folie physiologique selon les alénistes, et je vous le donne dans le mille. Les internements se font à 3 âges précis, 15 ans, 30, 35 ans et 50 ans. Comme elle le dit, ces chiffres parlent d'eux-mêmes puisqu'ils représentent en réalité les fameuses phases d'existence chez la femme, à savoir la puberté, entendez l'arrivée des règles et du désir sexuel, les nouvelles accouchées et les récentes ménopausées. C'est sur ce calendrier biologique que les médecins placent les femmes. On parle encore et toujours d'idiotie congénitale, causée par l'arrivée des règles puisqu'on remarque que les délires des jeunes internés ont fréquemment pour objet le sang et ses dérives, la couleur rouge, la blessure. Parce qu'en fait, elles vivent vraiment leur menstruation comme un trauma, puisqu'on ne les éduque pas sur le fonctionnement de leur corps. Du coup, ça provoque du dégoût de leur flux menstruel et par la même occasion de leur propre personne. Yannick Grippa nous dit « La femme glorieuse et la femme misérable se rejoignent dans une même déchéance corporelle. Il n'est de vie sexuelle féminine que génitrice. Il est donc impossible de supposer sa permanence après la cessation des menstruations. Le faire signifierait reconnaître l'existence d'une sexualité chez la femme. » Outre les jeunes filles et les femmes ménopausées, on a aussi une population de célibataires de l'ordre de 47% à la Salpêtrière entre 1838 et 1848. Pourquoi ? Encore une fois, parce que la femme seule doit assurer sa subsistance. Si elle n'est pas femme au foyer, elle est étiquetée de folle par ses collègues de travail ou son employeur dès qu'ils perçoivent les premiers signes de la fameuse folie. Si elle vit seule, La célibataire, aliénée, n'est plus en mesure de payer son loyer et son internement s'effectue alors sur la demande de son propriétaire, désigné souvent sous le terme de logeur. On voit qu'il y a une forme d'unanimité autour de cette vision de la femme comme une mère en puissance. Le célibat est donc un état contre nature. Qui n'est pas mère n'est pas femme. L'enfant complète la vie de la mère. Forcément, on entendra très peu de la part des alénistes qu'une femme peut être internée pour excès de travail intellectuel. 44 femmes contre 314 hommes ont un chagrin lié à la perte de fortune. 296 femmes contre 550 hommes ont une ambition déçue. La capacité des femmes à être savantes est niée. L'autrice explique que le dictionnaire abrégé des sciences médicales va même jusqu'à ériger en réalité scientifique des idées reçues en affirmant « les femmes savantes ne savent rien au fond » et je cite ce passage « elles brouillent et confondent tous les objets, incapables de fixer assez longtemps leur attention sur une seule chose, elles ne peuvent éprouver les vives et profondes jouissances d'une méditation forte, elles en sont même incapables. » Les aliénistes vont plus loin. Le projet d'étudier suffit chez une femme à créer le déséquilibre davantage par le désespoir que déclenche son impossible réalisation que par l'étude qui l'entraîne. La femme devient folle avant d'atteindre cette démesure, par ambition déçue. À l'homme, on l'a vu, revient le triste apanage de devenir fou par excès de travail intellectuel. Une fois qu'on a bien fait comprendre à ces mesdames qu'elles n'étaient absolument rien aux yeux de la société, on les place dans des conditions hygiéniques et psychologique évidemment déplorable, voire abominable. Odeur nauséabonde, fétide due à des systèmes d'évacuation défectueux. Sous les pavillons, il y a des matières fécales qui se putréfient. Il y a de la moisissure qui imprègne toute la salle pétrière. Elles ont droit à leur arrivée à la douche, la fameuse hydrothérapie, qui consiste à projeter un jet d'eau sur la malade à l'aide d'un tuyau tenu par un membre du personnel ou fixé au plafond. Selon son diamètre, elle est plus ou moins violente. La commotion peut être suffisamment forte pour s'étendre à tout le corps. Si le traitement est poursuivi trop longtemps, il peut en résulter une syncope, parfois même la mort. On a aussi, alors attention, je fais un petit trigger parce que c'est assez violent, on a aussi des poses de sangsue et des saignées qui visent à soulager le corps d'un supposé trop-plein de sang. Donc les sangsues sont fixées aux cuisses ou à la vulve et parfois elles pénètrent par accident le vagin. On va aussi museler la sexualité avec tout un arsenal mis en place comme la camisole, les menottes, des morceaux de liège attachés à la partie interne des cuisses pour éviter tout attouchement excitant, des caleçons conçus pour chaque sexe, fermés dans le dos par un système complexe. Pour conclure, toute femme est une hystérique en puissance qui ne peut échapper aux causes prédisposantes, à savoir son sexe, son âge, son hérédité, sa constitution physique, sa disposition morale, sa position sociale, son mode d'éducation, d'alimentation, ses passions, ses affections morales. Et le livre se termine sur ce constat terrible de l'aliéné, qui espère encore et attend non sa guérison, mais la fin de sa séquestration. Les placés ne peuvent ignorer s'il leur reste quelque lucidité que la sortie ne sera prononcée que pour 15% d'entre elles environ. Pour les autres, c'est l'asile sans fin, si ce n'est celle imposée par la mort. Voilà un petit aperçu du milieu psychiatrique au XIXe siècle et surtout de la condition de la femme à ce moment-là. Alors évidemment, aujourd'hui, il existe encore des situations déplorables de traitement de malades mentaux et des femmes dans beaucoup de pays, mais c'est encore un autre sujet. Et ce qui m'a poussée à partager cette lecture, c'est surtout une réflexion que je porte souvent à tort sur la notion d'ambition. Je m'entends souvent dire que je n'ai pas d'ambition dans la vie, ou en tout cas, j'ai tendance à penser qu'avoir de l'ambition, c'est forcément avoir de grands projets. Alors qu'être là, à cette table, à exprimer librement avec mes camarades mes opinions, mes lectures, mes écrits, mes combats, est une forme d'ambition. Pouvoir choisir d'être célibataire, de ne pas être mère, d'avoir une carrière, me positionner selon mes convictions dans la société, tout ça aurait pu, à l'époque, être un simple motif d'internement psychiatrique. On garde encore dans le langage courant certaines expressions citées plus tôt dans cette chronique du type « folle d'inquiétude »,« folle de rage », »,« folle d'amour ». Et moi, aujourd'hui, j'aimerais nous dire désormais folle d'ambition et fière de l'être. We argue in the kitchen about whether to have children, about the world ending in the scale of my ambition, and how much is art really worth. If everything you're best at is the thing that hurts the most, but you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings.
you need to go to war to find material to sing. I am a mother, I'm a bride, I'm a king. I need my golden crown of sorrow, my bloody sword to swing, my shape. Just when you think you have it figured out, something new begins to take. What strange claws are these scratching at my skin? I never knew my killer would be coming from within. I am no mother, I'm a bride, I'm a king. I'm no mother, I'm a bride, I'm
Alors, pour ma dernière participation en direct dans l'émission avant mon grand départ au pays de la neige et à Caribou, où je rejoindrai notre chère Liana, j'aurai besoin de vous emprunter vos voix pour lire avec moi quelques scènes de Ring, une pièce de théâtre écrite par l'autrice et actrice franco-belge Léonore Confino, qui parle avec douceur, intelligence mais aussi humour des relations entre hommes et femmes. Avant de vous faire découvrir le prologue de ce beau texte, mais aussi deux autres scènes, je voudrais faire une petite dédicace à Étienne, qui me l'a fait découvrir, et à Bruno, qui me prête gentiment son livre. Mathilde, tu fais la fille et je fais le garçon pour les scènes 6 à 10 ?
Bien sûr, Anissa. La bête se rhabille déjà. Il me plaît beaucoup ce caleçon. Cette couleur, c'est aubergine, prune.
Je sais pas, violet.
Ça doit être ça. Tu veux que je nous prépare à manger ?
Je suis un peu serrée aujourd'hui. Dis-moi, tu n'es pas en train de t'attacher, hein ?
Surtout pas.
Les femmes le disent, mais pensent tout le contraire.
Tu as oublié que j'étais une femme hors du commun ?
À ce point.
J'ai tout sauf envie de m'engager avec un homme. Les butinages me conviennent très bien.
Je ne suis pas le seul gibier sur ton tableau de sas.
Qu'est-ce que tu en penses ?
C'est peut-être naïf, mais j'ai l'impression que si. Peut-être parce que tu as l'air d'être pleinement là, avec moi, quand on se voit. Attention, je suis prêt à entendre l'inverse.
On s'aventure sur des œufs.
Je suis solide. Alors, je dors ?
Tu veux vraiment savoir ?
Oui, et je trouverais ça parfaitement normal, puisque de mon côté, j'ai Mathilde.
Les hommes le disent, mais la plupart du temps pensent le contraire.
Tu oublies que je suis un homme exceptionnel.
Ah ? Bon. D'accord. Je fréquente.
Fréquente? Qu'est-ce que ça veut dire, fréquente?
J'ai un autre amant.
Très bien, ça me rassure pour toi. Je le connais?
Non.
Je trouve ça bien, mais ça me surprend de toi.
Ah oui.
Je pensais pas que tu serais du genre à te faire sauter par deux types en même temps. Quel appétit.
Je ne mange personne. On partage des moments.
Tu te rends compte que tu as 32 ans et que tu n'as rien construit? Que tu te satisfais de moments?
Tu te rends compte que tu es à peine mariée depuis un an et que tu trompes ta femme toutes les semaines?
Mais au moins j'ai construit ma grande. J'ai bâti quelque chose de solide. Tu ne veux pas d'enfant? Tu comptes vieillir seule?
Je ne compte rien.
Est-ce qu'il t'arrive de nous voir tous les deux dans la même journée?
Honnêtement?
Arrête avec ce honnêtement, c'est d'un condescendant.
Oui, ça m'arrive.
Tu changes les draps, au moins, entre deux passes.
Fais attention à ce que tu...
Je plaisante. Comment est-il?
Différent. Sinon, je me contenterai de nos rencontres.
Quel métier?
Guitariste.
C'est touchant. Donc moi, je suis le cas de plan-plan.
Tu portes des costumes, c'est vrai, tu sens bon, tu es fière. Tu évolues dans le vrai monde du travail. Pour moi, tu es presque le plus exotique des deux.
Je trouve que ta vie est triste.
J'ai l'air triste.
Non, mais dans le fond, tu l'es pour rêver si peu à la famille idéale. Il y a forcément un problème.
Il n'y a pas de famille idéale. Il n'y a que des familles qui mentent. Je suis peut-être déréglée, mais je suis honnête.
C'est facile d'être honnête quand on ne s'engage pas.
Je voudrais que tu dégages maintenant. Le tourisme sexuel au pays des attachés cases m'a fatiguée.
Je suis dégoûtante.
Ça tombe bien, tu ne me goûteras plus.
Je te souhaite un jour d'être la femme d'un seul homme.
Je t'enverrai un avis de décès, promis.
Maintenant, la scène 10.
Tu pourrais te charger d'emmener les petites à l'école demain?
Impossible. Mon train pour Lyon part à 7h57. Tu n'as qu'à demander à Elena.
Tu ne peux pas décaler ton billet?
C'est ma réunion qu'il faudrait que je décale, et tu sais que c'est délicat. Les directeurs d'hôpitaux prévoient leurs emplois du temps des semaines à l'avance.
Tu reviendras dans l'après-midi pour aller les chercher à la sortie et conduire Sarah à son solfège.
Mais qu'est-ce que tu vas faire de si important, bon Dieu?
Rien. Partir.
Partir où?
Partir d'ici, dans un premier temps. Ou je ne peux pas te le dire.
Qu'est-ce qui t'arrive?
Je viens de lire Un train pour la vie de Stella Brighton.
Je ne vois pas le rapport.
C'est normal, il faut l'avoir lu. C'est l'histoire d'une mère danseuse qui quitte ses filles et son mari pour vivre sa vie.
Et si je te donne un livre où la mère trucide toute sa famille, ça t'inspirera aussi?
Tu es bête. Là, mes points communs avec l'histoire sont flagrants. J'ai fait de la danse classique toute mon enfance. Nous avons deux filles. Le père est électricien.
Je suis chirurgien.
Deux métiers avec des outils.
Elle est folle. Bon, et dans ton histoire, la mère saute de joie quand elle plante toute sa famille?
Elle a des crises de manque, elle souffre bien sûr. Mais au moins, elle transforme sa vie en destin. Elle est libre parce que, elle ne fait aucune concession.
Camille, c'est un livre, un idéal, une projection, une vision romantique. Quand tu as eu une gastro le mois dernier et que tu ratais les toilettes pour vomir, je ne t'ai pas dit. Tiens, je viens de lire Belle du Seigneur et nous sommes trop différents d'Ariane et Solal. Je me tire.
Je suis malheureuse.
Viens dans mes bras, pleure. Je vois bien que tu rames un peu en ce moment.
J'ai l'impression d'être transparente. Personne ne se souviendra de moi. Je voudrais marquer ma vie avec quelque chose. Un braquage, un attentat, une chanson, n'importe quoi.
Tu m'as offert deux filles extraordinaires.
Quand je les emmène au parc et que je les compare aux autres fillettes, elles n'ont rien d'extraordinaire. Elles sont aussi banales que moi.
Je devrais te gifler.
Justement, tu ne me bats pas, tu ne me grondes pas. Je te dis que j'ai envie de tout abandonner et toi, tu m'écoutes, tu me consoles. Tu es parfait. Je n'ai rien à raconter à mes amis.
Tu n'as qu'à leur dire que je te tabasse tous les soirs.
En plus, tu es drôle.
Tu sais ce que je te propose?
Dis toujours.
On va organiser ta disparition.
Quoi?
On va préparer tes affaires sans se presser. On va te réserver une chambre au nom de Madame Brighton dans une jolie petite ville.
On fleure,
d'accord. Demain matin, tu emmènes les filles à l'école comme d'habitude et moi, je prends mon train pour Lyon. Une fois revenue à l'appartement, tu récupères tes valises puis tu vas à la gare. Dès mon retour, à 15h, j'appellerai ta mère complètement paniquée.
Fais attention, elle a des antennes.
Je ferai une centaine de pompes avant de l'appeler pour suffoquer.
Je suis toute excitée.
Tu disparais une semaine, pas plus, pour ne pas traumatiser les petites. On préviendra la police, l'école, les voisins. Tu vas être une star.
qu'est-ce que je raconte à mon retour ?
Ça, tu as une semaine pour l'imaginer. Ne lésine pas. T'as droit qu'à une disparition tous les 20 ans.
Oh oui, un enlèvement par des brigades colombiennes. Ou séquestrée au fond d'une cave par un réseau de prostitution biélorusse. Non, une mission humanitaire secrète au Zimbabwe que m'aurait confiée Amnesty International.
Bon, on va réfléchir ensemble sans vouloir te vexer. Et pour finir, parce que je suis une personne très logique, le prologue. Cette fois-ci, c'est moi qui fais la fille. Adam ?
Ève ?
Je m'ennuie.
C'est normal.
Oui, mais aujourd'hui, je m'ennuie particulièrement.
Pourquoi tu n'irais pas jouer avec les animaux ?
J'en ai assez de jouer, eux aussi. Même le serpent s'ennuie à mourir. On dirait un boyau mort.
Va accueillir des fruits.
J'ai mal au ventre à force de manger des fruits.
Tu ne couvrais pas un petit cafard du dimanche soir, toi ?
Notre solitude me pèse.
Je ne te suffis plus.
Si, mais...
Tu ne te réjouis plus à ton réveil de voir la rosée mouiller nos hibiscus ?
Si.
Tu ne ris plus de la danse des singes quand ils pendent au baobab, quand ils se pendent au baobab par la queue ?
Si, si.
Tu ne t'émeus plus du piaillement des chatons à l'approche de...
Je l'ai noiré. Je ne comprends pas pourquoi on nous condamne à vivre l'un avec l'autre.
Essaye de ne plus penser.
C'est trop dur.
Allonge-toi. Laisse-moi baiser ton front, tes angoisses.
Je voudrais m'épanouir intellectuellement.
Pour faire quoi ? J'aime l'écorchure de tes genoux, l'horizon de tes cuisses.
Tu m'aimes ?
Tes hanches de luthier, ton duvet de poussin.
Bon, j'ai compris, viens.
Décolle ta feuille.
Enfile la mue de serpent.
Ah non !
Je ne transigerai pas.
Pas la mue ! Nous devons nous aimer, Ève.
Pourquoi faire ?
Pour assurer notre descendance.
Hors de question. Si nous nous reproduisions, nos enfants n'auront pas d'autre choix que de se reproduire entre eux, et nos petits-enfants aussi.
Et alors ?
Ils vont dégénérer.
Ils vont dégénérer.
Ils vont dégénérer. I caught sight of my reflection. I caught it in a window. I saw the darkness in my heart. I saw the signs of my undoing. They had been there from the start. And the darkness still has work to do. The knotted cords untying. Oh, they're heated and they're holy and they're sitting there on high. So secure with everything they're buying. In the blood of Eden. Is surely slipping. I think I've lost my hold. Yeah, I think I've lost my hold. I cannot get insurance anymore. They don't take credit, only gold. Is that a dagger or a crucifix I see? You hold. Certainty, nothing to rely on, holding still for a moment.
the distant thunder of a million unheard souls, of a million unheard souls. Why teach when reach for creature comfort, for the filling of their holes in the blood.
Pour terminer en douceur cette émission, je vous partage ici une petite part de consolation. Un groupe de musique que je convoque souvent quand ça va très bien ou au contraire quand ça va pas du tout. Ce groupe, il est originaire de Kiev en Ukraine et s'appelle Dacha Braka ou Dacha Braha pour risquer de le prononcer encore plus mal. Je ne connais rien aux différentes cultures de l'Ukraine. L'Ukraine, je l'ai seulement fantasmée. Rêver sur quelques accords et les voix importées par Dacha Braka. Et je voulais simplement vous partager cette musique qui m'a emmenée souvent là-bas, dans cette Ukraine imaginaire. Dacha Braka, c'est un groupe de musique porté par trois fans, Irina Kovalenko, Olena Tsibulska, Nina Garanetska, accompagnée de Marko Alenevich. Ils définissent leur style musical comme un chaos ethnique, un genre unique, mélange punk de différentes musiques traditionnelles du pays et de sons contemporains. Depuis leur début en 2004, le groupe a composé sa musique en parcourant l'Ukraine, avec pour but de récolter les sonorités locales et de mélanger dans leurs paroles les différentes langues qui se côtoient dans le pays. On entend une fois du russe, l'autre fois du tartare, puis de l'anglais aussi et de l'allemand. Leur envie, à travers leur musique, c'est de dire le carrefour, cet espace où les racines se tordent, se croisent et s'entremêlent les unes aux autres. Leur envie, c'est de recomposer avec les morceaux d'identité éparses et divisées. De rassembler les instruments traditionnels du pays et de convoquer ceux d'autres origines pour faire tenir la note. C'est peut-être ça qui est si particulier dans leur musique. C'est qu'on y sent l'exil qui fuit et qui déborde de partout. On sent quelque chose de l'humanité qui se rejoint, puis se dissout. On entend la marche pressée pour rattraper ce qui coule de tous côtés, pour remettre les tuiles là où ça perce. Dans leur musique, on entend les langages qui s'incorporent, qui s'arrachent les voyelles et les consonnes les unes aux autres. On les entend, ces alphabets différents qui tentent de se déchiffrer. On entend les instruments qui s'en mêlent les cordes, partis en voyage dans tous les sens. C'est tout ça qu'on entend dans les musiques de Dacha Braka, une sorte de chaos qui réussit à tenir dans un seul morceau. Aujourd'hui, Dacha Braka tente de faire passer le message à ses auditeuristes de l'autre côté de la frontière, aux citoyens, citoyennes russes, que l'invasion est bien réelle et qu'il faut l'arrêter de toute urgence. Voici pour vous, avec douceur, Koliskova.